franceinter.fr.
L'air pollué dans le métro est-il dangereux pour la santé? Question sensible aujourd'hui à la une de la science. Respirer dans les tunnels du métro et du RER nuit gravement à votre santé. Voilà en tout cas ce que les usagers du RER pouvaient lire ce matin sur des tracts distribués par les travailleurs du métro à la station Gare du Nord à Paris. Pour discuter de ce sujet, Axel, on reçoit Dominique Gombert de l'ANSES.
Bonjour Dominique Gombert.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'évaluation du risque pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement. Alors question simple, est-ce que prendre ou travailler dans le métro tous les jours est une activité à risque ?
Alors ce qu'on sait, c'est que dans le métro, on va être exposé à un certain nombre de polluants atmosphériques. C'est pas exactement les mêmes polluants atmosphériques que ceux qu'on peut rencontrer dans les rues de Paris, par exemple, mais on va être exposé à des concentrations importantes, voire très importantes, de particules fines, atmosphériques, qui sont des contaminants pour lesquels on a identifié des enjeux sanitaires extrêmement importants.
Pourquoi est-ce que c'est pas les mêmes que dans la rue ?
Alors c'est pas les mêmes parce qu'ils sont pas du tout générés de la même façon. Dans la rue, globalement, on est exposé principalement à des contaminants qui résultent de phénomènes de combustion, hein, essentiellement les transports, les moteurs, des véhicules à essence ou diesel, ou aussi les industries, le chauffage, l'incinération des ordures ménagères. Par contre, quand on est exposé dans le métro, on est exposé d'abord à un air qui vient de l'extérieur de la ville, parce que pour mettre de l'air dans le métro, il faut le prendre quelque part. Et puis ensuite, on peut y rajouter un certain nombre de contaminants qui sont produits spécifiquement dans le métro. Et dans le métro, on produit beaucoup de particules, hein, qui résultent essentiellement des phénomènes de freinage, d'usure, les trains qui roulent sur des rails, qui freinent, le ballast, l'usure des quais, les frottements. Donc on fabrique beaucoup de particules qui en plus vont avoir énormément de mal à être évacuées du métro et qui vont être remises en suspension à chaque fois qu'il y a des mouvements importants, donc à chaque fois qu'il y a des trains qui entrent, qui sortent des stations de métro ou des stations de RER.
Ben, c'est pas très réjouissant là ce que vous êtes en train de nous dire, Dominique Gombert. Vous aviez d'ailleurs publié un rapport en 2015, remis au ministère de la Santé. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis 2 ans? Ça s'est amélioré ou pas?
Alors, il faut savoir que la problématique de ce qu'on appelle les espaces ferroviaires souterrains est une problématique finalement assez ancienne, hein, qui a commencé à être documentée au début des années 2000 avec des enjeux en termes de surveillance. C'est vrai que l'agence notamment a remis un rapport important en 2015 qui permettait à la fois de caractériser les niveaux, les enjeux en termes de risques sanitaires et qui pointait aussi un certain nombre de mesures à mettre en place. Je pense qu'un certain nombre ont commencé à se déployer, hein, le remplacement des systèmes de freinage, l'amélioration des systèmes de ventilation, des modes d'intervention différents en termes de maintenance sur les matériels qui visent finalement à limiter l'exposition d'abord des travailleurs du métro et puis aussi des utilisateurs du métro. Mmh. Pour autant, on est encore exposé aujourd'hui à des niveaux qui sont importants et supérieurs sur les particules à ce qu'on observe à l'extérieur dans les rues de Paris notamment.
Alors aujourd'hui, les travailleurs manifestent pour dénoncer, c'est un des slogans, des taux mortels d'exposition. Vous ne nous avez pas répondu, quels sont vraiment les risques qu'on encourt quand on respire ces particules?
Alors les particules, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de pollution atmosphérique, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux et notamment dans le métro, les particules sont sûrement, alors on a énormément de connaissances sur les effets sanitaires de la pollution atmosphérique, hein, avec une quantification des effets en termes de mortalité, morbidité qui est bien connu, mais ce qu'on sait surtout, c'est que parmi l'ensemble des polluants auxquels on est exposé, les particules atmosphériques sont certainement les contaminants qui sont les plus problématiques, hein, en termes de santé. Ça va générer des phénomènes de stress oxydant sur les cellules et un certain nombre de pathologies respiratoires, cardiovasculaires, qui sont aujourd'hui extrêmement bien documentées. C'est pour ça que, notamment, il y a des valeurs de référence dans l'air ambiant extérieur pour protéger les citoyens.
Qui sont ces personnes qui sont particulièrement exposées, ces travailleurs ?
Alors, les gens qui sont exposés dans le métro, au-delà des usagers, c'est d'abord les gens qui vont y passer beaucoup de temps, donc les professionnels qui vont être amenés à conduire, à maintenir, mais aussi tous les gens qui finalement sont amenés à travailler sous terre, entre guillemets, les gens qui vont assurer la maintenance des espaces, le nettoyage des espaces souterrains, voire, et on le voit fleurir de plus en plus, des gens qui vont avoir une activité commerciale hein, dans les espaces ferroviaires souterrains et qui eh bien, vont se retrouver dans des conditions d'exposition qui vont être plus importantes que celles auxquelles ils auraient eu affaire à l'extérieur.
Est-ce que le problème est le même dans les autres réseaux français et européens ?
Alors, ce qu'on peut dire de façon extrêmement caricaturale, hein, c'est que plus le métro est ancien, plus le métro est profond, eh bien, on comprend que pour un certain nombre de raisons, c'est plus difficile d'évacuer, je dirais, les polluants qui sont émis. Et puis, d'autre part, bah, il y a des technologies beaucoup plus anciennes qui avaient été déployées et qui sont difficiles à moderniser. Donc, globalement, le métro de Londres est confronté à des problématiques qui sont très similaires à la problématique du métro de Paris. Pour les autres métros français, européens, mondiaux, ma foi, je dirais que dès lors qu'on a des systèmes qui sont récents, moins profonds, donc mieux ventilés, avec des systèmes aussi de circulation des rames plus performants, on a forcément des concentrations qui sont moins importantes.
Une dernière question. Vous êtes à l'ANSES en ce moment en train de travailler à la réévaluation des seuils d'exposition pour les professionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces seuils vont effectivement baisser en avant-première, en quelque sorte ?
Bah écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que les seuils qui prévalent actuellement sont des seuils anciens, hein, et c'est d'ailleurs un des points qu'avait pointé l'ANSES dans son rapport, hein, la nécessité de les réévaluer. Donc c'est un travail qui est en cours, qui est compliqué, parce qu'il faut aussi prendre en compte la spécificité des particules qui sont générées dans le métro, donc avoir des études de toxicologie, d'épidémiologie, qui permettent de refondre ces valeurs. Mais globalement, évidemment, dès lors qu'on refonde des valeurs qui sont anciennes, on peut s'attendre à une évolution à la baisse, qui sera annoncé vraisemblablement dans le courant de l'année prochaine.
Merci beaucoup pour vos explications, Dominique Gambert de l'ANSES.
Merci beaucoup.
Axel, bon week-end.
Bon week-end à vous.
On se retrouve lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, double cocorico pour la recherche française qui s'est vue décerner hier soir à Londres deux prix Ig Nobel, le fameux contre-pied humoristique des prix Nobel et qui récompense chaque année la science loufoque et décalée, mais attention, toujours sérieuse et publiée. Marc-Antoine Fardin, chercheur à l'École normale supérieure de Lyon, s'est vu récompensé en physique pour avoir répondu à cette question. Un chat peut-il être à la fois solide et liquide ? Et puis le neurobiologiste Jean-Pierre Royer s'est vu décerner le prix de médecine pour son étude très poussée sur l'aversion à l'odeur du fromage. La fonte des glaces des massifs alpins, trois fois plus rapide depuis 2003. Une équipe de glaciologues grenoblois montre que les glaciers des Alpes ont perdu 25% de leur surface au cours des 12 dernières années. Bien sûr, la cause majeure, c'est le réchauffement climatique, mais l'accélération là est exceptionnelle. Le massif du Mont Blanc est celui qui, pour l'instant, résiste le mieux à la chaleur, puisqu'il enregistre un retrait de ses glaces de seulement 1% par an sur la même période, contre presque deux fois plus pour les glaciers moins élevés. Une robustesse passagère qui ne durera que quelques années, selon les chercheurs. Et puis pour terminer, les écureuils sont des professionnels du tri. Une étude anglaise montre que ces petits mammifères amasseurs de graines ne se contentent pas seulement de les ranger bien au chaud dans leur cachette secrète, mais qu'ils passent aussi beaucoup de temps à les trier. En effet, les chercheurs montrent que ces rongeurs classent leurs récoltes par variété, qualité et même préférence dans différents endroits. C'est en équipant des écureuils de balises GPS sur plusieurs semaines que les chercheurs ont pu découvrir le poteau rose. C'est également la première fois qu'une activité de tri logique est observée dans la nature.